106.5.
Midi sur les antennes de Présence, peut-être bon appétit si vous êtes déjà devant une assiette, et puis si vous êtes sur la route à nous écouter, à vous rendre chez vous pour déjeuner, eh bien on vous souhaite tout simplement un bon appétit. On finit cette matinée ensemble, on est en direct jusqu'à 13h, et puis au sommaire de ce magazine, on va parler beaucoup de littérature aujourd'hui. C'est vrai que le mercredi est considéré au livre, on a l'habitude avec un jour un livre en auteur avec Philippe Loni et Diego Rabal, mais avant cela on va parler d'un autre livre qui a été écrit sur le Gers, géographe et ancien professeur à l'École Nationale d'Instituteurs d'Auch, Robert Sourpe vient de sortir un livre qui porte le thème « Regard sur la Gascogne gersoise ». Il sera interviewé par Pauline Casier. Et puis dans un jour, un livre l'auteur, j'en parlais il y a quelques secondes, on partira à la découverte de la rentrée littéraire. Et plus de 500 livres sont sortis en mois de septembre. Et bien on ira dans une belle librairie qui nous ouvre toujours les portes avec un grand plaisir. Elle s'appelle Bleu et Or. Elle est à Saint-Lary dans la Vallée d'Or. Vous comprendrez le jeu de mots entre Bleu et Or. Et on sera donc avec la libraire qui nous parlera donc de cette rentrée littéraire. Et elle aura, Philippe Loni, vous l'entendrez, un quartier libre avec une sélection de livres qu'elle a trouvé intéressant et qu'elle nous proposera donc d'ici quelques minutes. Voilà pour le sommaire de ce magazine. On va y aller tranquillement, on démarre en douceur et on démarre même en chanson avec Véronique Sanson.
À Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Géographe et ancien professeur à l'école normale d'instituteurs d'Auch, Robert Sourpe vient de sortir un livre qui a pour thème « Regard sur la Gascogne gersoise ». Robert Sourpe, au micro de Pauline Cazier, nous parle de son livre et du regard porté par les écrivains sur ce département.
Robert Sourpe, bonjour. Alors, vous êtes géographe, vous avez été professeur de géographie à l'école normale.
Histoire et géographie, parce que les deux disciplines sont étroitement imbriquées dans l'enseignement secondaire. Et j'ai été professeur à l'école normale depuis l'année 1969. Et donc, j'ai fait une grande partie de ma carrière dans cet établissement. Et lorsque cet établissement a disparu en 1991, là j'étais déjà engagé dans une thèse, et donc cette thèse m'a permis de devenir maître de conférence. Alors là, spécialisé en géographie, et en géographie puisque je préparais les étudiants à ce moment-là dans cet exercice difficile qu'ils tentaient, c'est-à-dire le CAPES. Voilà.
Alors aujourd'hui, je vous rencontre pour votre livre « Regard sur la Gascogne gersoise » édité l'année dernière aux éditions Cairn. Un regard qui concerne particulièrement sur les spécificités du paysage de la Gascogne, du paysage gersois.
Oui. Donc c'est le territoire gersois qui m'a intéressé, d'une part parce que j'y vis. Et même bien avant d'être professeur, je faisais mes études à Auch. Donc dans le cadre aussi de l'école normale. Alors, il est évident que c'est un parcours de vie qui m'a incité à travailler sur le regard. Ce regard, c'est essentiellement le regard collectif. Ce n'est pas seulement le regard d'un tel ou un tel, mais comment, par des sources différentes que j'ai sollicitées, l'image d'un pays se précise dans un sens qui peut être défavorable, dans un autre sens qui peut être au contraire très favorable. Et cette enquête que j'ai réalisée m'a d'ailleurs amené à voir des regards extrêmement différents dans la littérature surtout. J'ai beaucoup utilisé la littérature parce que la littérature traduit aussi cette image que l'on a d'un pays et en particulier la poésie. Et la poésie est peut-être l'essence maximale de la manière dont ce regard collectif s'est appuyé sur ce territoire.
Et on peut commencer par une figure gersoise, Sallust du Bartas. Oui.
Alors j'ai commencé par Sallust du Bartas parce qu'il est présent dans la mémoire collective, mais ce n'est qu'un nom.
On peut situer déjà à quelle époque ?
Alors, il s'agit du XVIe siècle. Et il s'agit d'un contemporain de Ronsard, de la Pléiade. Donc, il faut quand même voir l'importance de ce personnage à l'époque. Son œuvre est une œuvre religieuse, mais le XVIe siècle est un siècle profondément religieux qui a entraîné aussi cette passion, puisque hier soir on parlait sur Antenne 2, on parlait de la Saint-Barthélemy. Donc ce poète est contemporain et même il a dû, je pense, connaître des troubles à Toulouse où c'était même avant la Saint-Barthélemy où des milliers de protestants seront pourchassés, tués, et il a dû fuir à ce moment-là pour retrouver sa belle terre du Barthas qui se trouve entre Cologne et Mauvesin.
Est-ce qu'on peut dire qu'il a influencé des poètes d'autres pays européens ?
Oui. On peut dire que, à la suite de cette poésie, des poètes comme Le Tasse, comme Milton aussi, en Angleterre, ont été sensibilisés, car quand même son œuvre a été diffusée, a eu des éditions dans des langues multiples, pas seulement, mais en latin. Bon, ça, c'était normal, c'était l'anglais de l'époque. Mais aussi en espagnol, en italien, en allemand. Donc, vous voyez quand même. Et c'était quelqu'un que le roi, donc Henri IV, c'était un proche d'Henri IV, un proche de cette cour qui se réunissait soit à Pau, soit surtout à Nérac. Et donc, c'est quelqu'un qui aussi avait été reconnu comme poète par ce qu'on appelait la Florette, et qui était donc attribué annuellement à la meilleure œuvre de poésie, mais en gascon.
Vous parlez de Nérac. Alors, Nérac se rapproche de la figure de Marguerite de Navarre.
Oui, de Marguerite de Navarre et sa fille, surtout Jeanne d'Albret, qui a eu une importance considérable. Et bien sûr, la réforme pénètre au fond par ces deux, le Béarn d'une part, et par aussi l'Albret, mais pénètre même très fortement le Gers, puisqu'elle s'implante dans tous les territoires qui dépendaient des Albret, et Mauvesin en est un, dans lequel il y a encore un temple protestant aujourd'hui.
Alors, on va avancer de plusieurs siècles avec une autre figure importante qui est Monsieur de Pesquidou. Joseph de Pesquidou, c'est ça ?
Joseph de Pesquidou est quelqu'un. Bon, là, nous ne sommes plus au XVIe siècle, nous sommes à la fin, même au début du XXe siècle, dans lequel la Gascogne connaît une crise depuis au moins un demi-siècle. Une crise qui a entraîné le départ d'une grande partie de ses habitants. Bien sûr, ce sont essentiellement des pauvres gens. Il est évident que la révolution industrielle, qui commence à toucher d'abord ces artisans du textile, qui complétaient un tout petit peu leur revenu, qui étaient essentiellement des gens sans terre. Donc, bien sûr, ils sont partis les premiers. Et le Gers perd ses habitants pratiquement pendant au moins un siècle et demi. Et il y a quand même une crise sociale. Et là, bien sûr, l'ambition d'un Joseph Pesquidou, c'est de faire revenir au pays pour montrer cette civilisation et surtout empêcher que ce pays ne meure. Et c'est ça, l'angoisse de Joseph de Pesquidou. Donc, il écrit, bien sûr, c'est surtout dans certaines de ses œuvres, il renvoie un peu en arrière à cette civilisation, belle civilisation, dans laquelle il y avait des rites. Il y avait surtout une structure sociale qui était largement diffusée sur l'ensemble du territoire, celle du château, d'une part, et de la métairie, ce que nous voyons encore dans le paysage actuel. Mais, si vous voulez, ces familles étaient des familles stables qui se transmettaient. Et la crise, elle est, c'est presque une crise qui touche les structures de transmission aussi des domaines. Les domaines rapportent de moins en moins, et surtout, il y a la crise phylloxérique qui va entraîner quand même des dégâts considérables sur le terroir. Donc, c'est l'angoisse, en quelque sorte, de la friche, du départ des hommes, et d'une, alors que il y a une belle terre qui nourrit bien ses habitants. Tout à l'heure, je parlais de Salus du Bartas. Mais Salus du Bartas voyait son pays comme l'Éden, comme le paradis. Pourquoi ? Parce qu'il est dans le projet de Dieu pour les hommes, en leur donnant, au fond, tout ce qui est nécessaire à leur vie. Et dans beaucoup de poèmes, on trouve ça. Pas seulement de Salus du Bartas, mais des contemporains. Par exemple, dans un poème que j'ai lu l'autre jour, c'était un poème de Jean de Garros, dans lequel, bon, il le dit explicitement, c'est le paradis. Donc, cette vision, elle est aussi portée par Joseph de Pescidou. Et son livre, il l'écrit, il le dit explicitement, je l'écris pour que les habitants qui l'ont quitté reviennent dans ce pays. Magnifique tentative pour un écrivain.
Alors, il y a un personnage extrêmement important, et même aujourd'hui, c'est grâce à Alexandre Dumas, cette grande figure, hein, gersoise, gasconne, de D'Artagnan. Est-ce que vous pouvez nous parler, c'est un peu un mythe du cadet de Gascogne?
Bon, le mythe du cadet de Gascogne ne démarre pas avec Dumas. Hein. Il faut voir qu'il est beaucoup plus ancien.
Ça rappelle un peu Don Quichotte.
Voilà. Et ça renvoie, au fond, à l'écho de Don Quichotte. Hein, la figure de D'Artagnan étant un peu celle de ce Don Quichotte. Alors, dans mon livre, j'ai été un peu plus loin que dans le temps. Et j'ai découvert quelque chose que, collectionneur, j'avais trouvé un peu par hasard, qui est cette œuvre de... j'ai du mal à trouver le nom. Maintenant, je n'ai plus le... Il faut que je regarde dans... pardon, hein, je suis obligé de m'arrêter là. Paysage gascon. Dumas. J'ai le nom qui ne m'en vient pas. Voilà. Qui est le personnage d'Edouard Ourliac, qui était on appellerait ça un pigiste. C'est d'ailleurs quelqu'un qui écrivait dans les journaux, en particulier dans des journaux connus de l'époque. Mais il est sélectionné pour un ouvrage qui s'appelle « Les Français par eux-mêmes » et qui est paru en 1842, 2 ans avant les Trois Mousquetaires de Dumas. Et je sais, pour l'avoir lu, qu'il est en communication avec un certain Alexandre Dumas. Donc, on peut penser qu'il y a quand même une... Et ce que fait Ourliac, c'est donner justement l'image d'un Don Quichotte. Et là, il écrit sur le Gascon, paraît, parce que c'est près de l'Espagne, parce que c'est dans l'esprit de l'époque, un peu, déjà un peu, c'est un peu l'Espagne. Hein. Vous voyez, d'ailleurs, je l'ai découvert aussi en travaillant même sur les sciences. Par exemple, cette sociologie de Le Play, nous trouvons chez Le Play, cette idée que la famille est inspirée par celle qui se trouve plus au sud et même celle des nomades du Maghreb. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'intéressant. Bon, j'en reviens à D'Artagnan. D'Artagnan est dit dans ce qu'on appelle l'incipit, c'est-à-dire le début d'une œuvre est toujours pour l'auteur une manière de dire, eh bien, avant de donner le nom de D'Artagnan, à quatre reprises, il parle d'un Don Quichotte. Il est sur un bidet qui est aussi, comment dirais-je, étrange que Rocinante, par exemple. Il définit aussi cet esprit belliqueux, un peu celui de Don Quichotte, hein, qui croise le fer volontiers. Et donc, là, le début des Trois Mousquetaires, c'est le type gascon. Voilà. Donc, soucieux de l'honneur, mais ayant une certaine générosité, prêt à prendre des valeurs nobles, en quelque sorte, de l'époque, celle du chevalier. Donc, c'est un chevalier. Et bon, Alexandre Dumas va reprendre en quelque sorte cette vieille idée. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que il y a dès presque le temps d'Henri IV cette image du cadet de Gascogne qui se définit et qui va se télescoper, ça c'est certain, dans le théâtre avec la Commedia dell'arte. Et là, il y a quand même... ceci a été étudié, je n'ai pas inventé ça. J'ai été le chercher chez Véronique Larcade, qui a travaillé sur les capitaines gascons, qui sont aussi extrêmement valorisés, et c'est l'image de D'Artagnan aussi, parce que ce sont des gens qui sont des militaires, et des militaires particulièrement appréciés par les rois. Et appréciés aussi pour leur fidélité à une personne. Et surtout, princière, royale, enfin bon, ce sont des gens sur qui on peut compter. Et c'est l'image du Gascon.
Je vous remercie. Je vais rappeler une dernière fois le titre de votre ouvrage, « Regard sur la Gascogne gersoise », édité aux éditions Kern. Robert Sourd, merci beaucoup.
Voilà. Merci beaucoup pour vous.
Voilà, à l'instant, c'était Robert Sourpe qui nous parlait de son livre « Regard sur la Gascogne gersoise ». Il était interrogé par Pauline Cazier, notre correspondante dans le Gers.
Radio Présence à Luchon, 94 FM.
Pourquoi je vis ? Pourquoi je meurs ? Pourquoi je ris ? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. J'ai toujours confondu la vie avec des bandes dessinées. J'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers le haut. Au grand loto de l'univers, j'ai pas tiré mon numéro. je meurs. Pourquoi je crie, pourquoi je pleure. Je crois capter des ondes venues d'un autre monde. J'ai jamais eu les pieds sur terre.
Présence sur le Caus 106.5.
C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était mal habile, elle était difficile. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. Et Léonore attaquait le thème au piano. On trouvait ça tellement beau qu'on en oubliait de jouer. Elle s'arrêtait brusquement et nous regardait du haut de son tabouret. Elle disait reprenez fin de fin. C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était mal habile, elle était difficile. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. Souviens-toi qu'un violon fut jeté sur le sol, car c'était toujours le sol qui gênait Nicolas quand il était bémol. Ça commençait à manifester, c'était l'heure du goûter. Salut Jean-Sébastien et à jeudi prochain. C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était mal habile, elle était difficile. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. Un jour Éléonore a quitté la maison, emportant le diapason. Depuis ce jour nous n'accordons plus nos violons. Après l'autre, nous nous sommes dispersés. La fugue seule est restée. Mais chaque fois que je l'entends, c'est le printemps. C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était mal habile, elle était difficile. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois.
La voix de Maxime Le Forestier à l'instant avec la petite fugue sur Présence. Il est l'heure de faire un point sur l'actualité régionale et avec notre partenariat avec les écoles de journalisme de la région toulousaine.
Radio Présence dans la Cité Mariale, 96.
12h29, le point sur l'actualité. Bonjour.
Bonjour à tous. Airbus sous pression. Selon les analystes, la probabilité d'atteindre les 810 livraisons d'avions cette année est estimée à seulement 5%. Malgré des progrès, notamment les quelques 60 appareils livrés en août, le groupe doit intensifier les efforts pour respecter son objectif annuel, fixé à environ 820 unités. Entre septembre et décembre, il lui faudrait livrer en moyenne près de 97 avions par mois, un record historique pour rester dans la course. Certains prévoient un total de 790 à 800 livraisons d'ici la fin de l'année. Un nouveau signe du réchauffement climatique dans les Pyrénées. Selon une étude du CNRS, la date annuelle du déneigement a avancé en moyenne de 5 jours par décennie depuis 1986. Concrètement, la neige disparaît de plus en plus tôt au printemps, ce qui bouleverse le rythme de la nature en altitude. Cette évolution modifie la période de croissance des végétaux, mais aussi la durée des estives pour les troupeaux. Les chercheurs soulignent que ces changements fragilisent l'équilibre des écosystèmes de montagne, déjà sensibles aux variations de température. Dans les Pyrénées comme dans les Alpes, la tendance est claire. La saison s'accélère et les effets du réchauffement climatique deviennent chaque année de plus en plus visibles. En Haute-Garonne, les arrêts des travaux sur l'autoroute A69 engendrent une déviation imposée d'environ 50 km pour les poids lourds entre Toulouse et Castres. Concrètement, les transporteurs doivent désormais passer par un itinéraire plus long via Albi en empruntant la 68, la RN88 et la RD612 afin d'éviter de passer par la RD112 jugée trop dangereuse en raison de sa largeur trop étroite et de la fréquentation piétonne. Une mesure prise depuis le 1er septembre, ce détour allonge considérablement le trajet d'environ 30 minutes, entraînant des coûts supplémentaires et répercutés sur les clients, ce que dénoncent vivement les entreprises de transport. À moins de 6 mois des élections municipales de 2026, les élus se retrouvent sous haute surveillance sur les réseaux sociaux. La période de communication est strictement réglementée depuis le 1er septembre 2025. Toute publication diffusée depuis des comptes municipaux ou par des élus peut être considérée comme de la propagande électorale et entraîner de graves conséquences. Le code électoral interdit toute publicité commerciale ou promotion de la gestion d'une collectivité à des fins électorales pendant 6 mois avant le scrutin. En clair, un post Facebook vantant des réalisations de la municipalité pourrait fragiliser un candidat déjà élu. De même, financer un boost ou une publicité sur un réseau social, même pour une communication institutionnelle, devient interdit. La jurisprudence est sévère, des publications sponsorisées ou trop mises en avant peuvent engendrer une réintégration des dépenses dans le compte de campagne, voire l'inéligibilité. À Toulouse, le quartier Bonnefoy reste marqué par les mésaventures du chantier de la future ligne C du métro. Après l'effondrement survenu en juin rue Louis Massé, 25 habitants sont encore relogés et une quinzaine de foyers espèrent regagner leur logement d'ici octobre, une fois les sols consolidés. Les travaux en cours concernent notamment l'assainissement des canalisations bouchées, doivent être remplacés avant de rétablir pleinement le gaz et les réseaux. Et cet épisode s'ajoute à une longue série d'incidents qui rythment la vie du quartier depuis le début des travaux, renforçant l'inquiétude des riverains. Une expertise judiciaire est toujours en cours pour faire la lumière sur les causes de l'effondrement. Et puis enfin, attention si vous circulez de nuit sur le périphérique toulousain. Cette semaine, la préfecture annonce 2 fermetures pour cause de travaux d'entretien et de la chaussée. Dans la nuit du 3 au 4 septembre, le périphérique extérieur sera fermé entre les échangeurs de Purpan et de Bordelongue. Puis dans la nuit du 4 au 5 septembre, ce sera au tour du périphérique intérieur sur le même tronçon d'être fermé. Des itinéraires de déviation seront jalonnés, les fermetures annoncées en amont sur les panneaux lumineux. Les usagers sont invités à anticiper leur déplacement.
Voilà pour le journal de la mi-journée avec les élèves des écoles de journalisme de la région toulousaine qu'on remercie pour leur partenariat. Le retour de l'actu, vous le savez, ce sera 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Mais pour l'heure, on va retrouver le duo célèbre Philippe Noni, Diego Arrabal. Vous le savez, c'est la rentrée scolaire, mais c'est également la rentrée littéraire. Plus de 500 romans sont sortis en septembre. Eh bien, nous prenons la direction d'une belle librairie qui se trouve dans la Vallée d'Or à Arreau. Elle s'appelle Bleu et Or et notre libraire nous attend pour nous parler donc de cette rentrée littéraire de septembre 2025.
Présence sur le plateau de Lannemezan 92.2.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arrabal, Philippe Subercase.
Philippe Noni, Diego Arrabal, saison 13, on se croirait sur une série Netflix. 13 ans que je vous supporte.
Messieurs, bonjour.
Bonjour. Nous sommes une série Netflix.
Bonjour, bonjour les deux.
Nous sommes une série Netflix. Bonjour Diego Arrabal.
On est mieux qu'une série Netflix quand même.
On est même mieux qu'une série Netflix, oui, c'est vrai. Vous avez raison, Diego Arrabal.
Saison 13, mes amis. D'abord, on me plaisante, mais je vous remercie pour votre fidélité, pour le travail que vous faites chaque semaine à trouver des auteurs, des idées de parler de littérature, parce qu'on n'a pas parlé uniquement de livres. Vous nous avez fait découvrir les maisons d'édition, on va dans des librairies, on a parlé de poésie, de théâtre, de cinéma, on parle de temps en temps même de politique, de poésie.
De recueil de nouvelles également. Ouais, donc oui. Voilà,
on et fait le polar, le thriller.
Ah ben ça, les voilà. Polars, voilà, et les thrillers, c'est notre Diego Arrabal, le nôtre. Hein.
Il n'y en a pas deux.
Et on puis, ne le passe pas. Et puis qui dit septembre dit ben, rentrée pour les enfants, mais c'est aussi, je crois, la rentrée littéraire.
Tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est un quartier libre. C'est ainsi qu'on va dorénavant l'appeler, quartier libre de la librairie indépendante Bleu et Or à Saint-Lary-Soulan. Nous allons donc retrouver tout de suite Lucie Plessala, donc la responsable de notre libraire partenaire. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Bonjour Lucie.
Quartier Libre, ce sont vos coups de cœur de la rentrée littéraire 2025, mais pas que, c'est aussi votre choix des livres à découvrir. Il peut y avoir des poches, des bandes dessinées, des recueils de nouvelles, etc. Juste avant que vous nous présentiez votre Quartier Libre, Lucie Plessala, vous allez un peu, comme d'habitude, nous dire où se situe votre librairie dans Saint-Léry-Soulan et puis ce que vous y faites. On vous écoute.
Oui, alors donc je tiens la librairie Bleu et Or à l'entrée de Saint-Lary, où on présente des livres de tous les styles, aussi bien littérature, livres de montagne bien sûr, livres de la jeunesse, policiers et aussi un peu de science-fiction, de fantastique, et également un peu de jeux de société, quelques jouets et des articles pour les tout petits, pour les enfants tout petits.
D'accord. Vous êtes situé où dans la commune de Saint-Lary, que les gens qui nous écoutent, puisque l'émission est diffusée sur l'ensemble de l'ancienne région Midi-Pyrénées, vous êtes situé où et vous êtes quels sont vos horaires d'ouverture?
Alors, on est vraiment situé à l'entrée de Saint-Lary. Quand on arrive de Lannemezan, on est sur la partie, dans la rue principale à gauche. Et donc, on est ouvert 7 jours sur 7, toute l'année. On peut nous trouver tous les jours, donc de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h30.
D'accord. Ok, merci Lucie Plessala. Bon, Quartier Libre, je l'ai dit en exergue de cette émission. Ce sont vos coups de cœur de la rentrée littéraire, mais pas que, également des choix de poche que vous avez pu faire. On vous écoute pour votre Quartier Libre, Lucie Plessala.
Alors, pour commencer, j'aimerais parler d'un roman qui parle un petit peu des addictions et de la folie qui peut l'accompagner. C'est un roman de Victor Gestin qui s'appelle La mauvaise joueuse, édité par Flammarion.
D'accord.
La maison d'édition Flammarion. Et on est vraiment sur une jeune femme, en fait, qui, après en sortant de travail, va se retrouver prise par ses vieilles addictions, notamment sur les jeux, mais pas les jeux d'argent, en fait, les jeux en règle générale. Et cette addiction va l'emmener à travers tout un tas de situations un peu problématiques qui va changer sa vie.
Qui va changer. C'est une autobiographie ou c'est un roman ?
C'est un roman. C'est un roman, c'est écrit par Victor Gestin, jeune auteur qui vit autour de Nantes. Et qui donc, c'est son troisième roman et il a sorti ce livre sur les addictions, pour le coup.
D'accord. Livre donc sur les addictions, bon, qui va intéresser. C'est vrai qu'on n'a jamais Diego Arrabal. si, peut-être une fois. On a invité une addictologue. Tout à fait. On a fait une émission effectivement avec une addictologue qui est réputée, mais en 12 ans. Donc c'est la deuxième fois effectivement. Donc rappelez-nous le titre de ce roman qui parle des addictions, Lucie Plessala.
Il est écrit par Victor Gestin et c'est aux éditions Flammarion.
D'accord. Et le titre ?
La mauvaise joueuse.
La mauvaise joueuse. Allez, la suite de votre Quartier Libre, Lucie Plessala.
Alors j'aimerais autrement du coup enchaîner avec un livre de Violaine Béraud aux éditions Buchet-Chastel. Donc, il s'appelle Du côté des vivants. Là, on est vraiment par contre du coup sur l'histoire d'un homme qui se trouve dans un petit hôpital. Et on suit deux personnes dans une chambre d'hôpital, et notamment un homme qui a subi donc une chimio assez forte et qui doit réagir, qui veut réagir par rapport à son traitement et notamment le refuser. Donc c'est un peu une réflexion autour de la fin de vie, de tout ça.
D'accord.
Moi j'aime beaucoup ce qu'écrit en règle générale Violaine Béraud. C'est vrai qu'elle a une très belle écriture. J'ai déjà lu plusieurs d'elles et celui-ci ne change pas. Il est toujours un très beau roman, du coup, à découvrir aussi.
D'accord. Le titre donc Violaine Béraud et le titre de l'ouvrage ?
C'est Du côté des vivants.
Du côté des vivants, oui, c'est vrai que le titre est extrêmement, effectivement, évocateur aux éditions Buchet-Chastel. Allez, la suite de votre Quartier Libre, Lucie Plessala, allez-y.
Alors, je vais m'éloigner un petit peu de la rentrée littéraire pour l'instant et j'aurais aimé parler d'un manga qui peut s'inscrire du coup plutôt dans le côté rentrée scolaire en fait. même si c'est un manga qui va plutôt s'adresser aux adolescents, voire jeunes adultes, mais qui parle d'un sujet assez fort. C'est un manga qui, à l'heure actuelle, a deux tomes, qui risque d'être terminé en deux tomes, par contre, sur le harcèlement scolaire.
D'accord. Ah oui, c'est un thème... Voilà. Avec la rentrée scolaire qui arrive en même temps que la rentrée littéraire, on est sur un thème très fort, oui.
Oui, oui, oui. Là, du coup, en fait, dans ce manga, on a plusieurs petites histoires qui met en scène différents enfants, différents adolescents qui subissent, enfants et adolescents, qui subissent du coup du harcèlement. Et un détective, le détective Imamura, va les aider à affronter leur bourreau et à s'en sortir. C'est vraiment poignant. Et en fait, le détective Imamura a réellement existé. Ça fait partie. Il aide à l'écriture de ses mangas. Et voilà, c'est.
D'accord. C'est un inspecteur japonais qui existe réellement.
Un inspecteur japonais, oui. Plutôt un détective privé japonais.
Un détective privé japonais, d'accord, qui mène ses enquêtes de détective uniquement donc sur le harcèlement scolaire, ou c'est sur d'autres termes où il est sur le harcèlement scolaire et il aide, comme vous disiez, à la rédaction ensuite, enfin à l'écriture de ces mangas.
Alors, il prend beaucoup d'affaires, mais il est spécialisé vraiment dans le harcèlement scolaire. Et à côté de ça, du coup, il a voulu aider à laisser parler les personnes qui ont subi cela à travers ce manga.
D'accord. Et donc, dans le manga, le rôle qu'il joue, c'est-à-dire qu'il essaye de documenter le harcèlement donc scolaire subi par les personnes pour recueillir des preuves.
En fait, voilà, il recueille des preuves et il aide les personnes à se libérer de leur bourreau.
D'accord. Bon, mais écoutez, on a vraiment des thèmes différents. On poursuit sur votre quartier libre, hein, Lucie Plassala, allez-y.
Là, du coup, après, moi, je vais enchaîner encore pour parler plus d'une maison d'édition que j'aime beaucoup défendre à l'heure actuelle. Elle a été créée il n'y a pas très longtemps, ça va faire maintenant 2 ans. Les éditions Attive, une petite maison d'édition pour les enfants de 5 à partir de 5 ans. Et c'est une maison d'édition vraiment autour d'action, d'engagement, avec des albums à la fois documentaires comme par exemple Tous libres et égaux ou qui parlent des droits de l'homme et des enfants. Et autrement aussi, Une planète habitable pour tous, par exemple, autour un petit peu des actions à faire pour la nature. Mais à côté de ça, il y a aussi des histoires qui font un peu rêver, mais toujours un petit peu autour de la nature, des enfants. Et aussi une série de portraits d'enfants qui ont mené des actions dans le monde pour aider le monde à être mieux, à être meilleur.
C'est un livre illustré. Ce sont des livres illustrés, je suppose, que publie cette maison d'édition.
D'accord. Oui. C'est vraiment sous forme d'album à chaque fois, plutôt à partir de 5-6 ans, mais vraiment de belles histoires avec à chaque fois des auteurs et des illustrateurs différents, et qui présentent par contre des thèmes assez forts, aussi bien autour de la permaculture, de l'écologie, mais aussi autour par exemple, Memory, l'enfant qui redonne espoir aux filles, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va tout faire pour défendre le droit des filles, le droit des filles à pouvoir accéder à une éducation.
D'accord, à pouvoir accéder à une éducation. Donc là, je suppose qu'on parle de pays, effectivement, dans lesquels l'éducation...
Au Malawi.
Voilà, l'éducation pour
au
les
Malawi.
Filles. D'accord.
Au Malawi, notamment.
Le Malawi, c'est situé, rappelez-nous.
En Afrique.
Oui.
Exactement où, je pense que c'est en Afrique vraiment centrale. Mais à vrai dire, je ne...
Mais il me semble que c'est assez proche de l'Afrique australe, me semble...
Oh. Oui,
sauf si je me trompe.
Bon, Diego Arrabal va vérifier sur sa tablette. Vous savez que chaque année, Diego Arrabal, c'est notre filet de sécurité lorsqu'on a une erreur. On va vous laisser continuer votre quartier libre, Lucie Plessala, et Diego Arrabal revient vers nous dès qu'il a trouvé où se situe le Malawi et si c'est bien l'Afrique australe. Allez-y.
Alors, ça y est. En Afrique de l'Est, c'est au-dessus du Mozambique et entre la Zambie et le Grand Rift. Donc,
ouais. D'accord.
Eh ben, c'est l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est.
Pardon. L'Afrique de l'Est, d'accord, ok. Donc, livre, donc vraiment une sélection extrêmement diverse et très intéressante, Lucie Plessala, à la fois sur la rentrée littéraire, avec un éclairage sur la rentrée littéraire, mais aussi un éclairage, comme vous le dites, sur des livres qui vous plaisent, et là, sur une maison d'édition donc, qui existe depuis 2 ans, et dont vous appréciez énormément donc, l'engagement sur les livres qui sont faits, donc on rappelle, un des livres illustrés, jeunesse pour des enfants qui ont de 5 à...
Après, ça peut être vraiment lu jusqu'à 9-10 ans, notamment les documentaires peuvent être lus pendant, à tout âge même.
D'accord. Et je suppose que les adultes, parce que bon, je vous cache pas que moi, ça m'arrive assez régulièrement d'acheter des livres jeunesse pour les lire, parce que je trouve que... on conserve toujours des yeux d'enfant quand on continue à lire, hein, pas que sur des livres d'adultes. Pour vous, ce sont des livres que vous pourriez aussi conseiller à des parents qui souhaiteraient lire donc des histoires sur les thèmes que vous venez de donner, en leur disant, bah, écoutez, il y a ce livre-là, vous pourriez le prendre aussi. Vous le conseilleriez, ça, à un lecteur ou une lectrice ?
Ah oui, complètement, oui, pour que les parents puissent, en plus, ça aborde des sujets parfois pas toujours évidents à parler aux enfants, donc c'est vrai que c'est un bon moyen également de pouvoir en parler avec eux, de discuter avec eux, et il y a vraiment de tout, aussi bien sur l'eau que sur également
l'éducation,
le vivre ensemble. Je cherchais le vivre ensemble, donc voilà, c'est vraiment autour de ça.
D'accord. On poursuit sur votre quartier libre, Lucie Plessala. Allez-y.
Alors, j'enchaîne également encore sur un roman jeunesse, cette fois. Bon, là, plus roman un peu plus classique que roman autour d'un roman policier pour à partir de 10 ans, de 9-10 ans. Vacances au chalet maudit de Muriel Zurcher aux éditions Didier Jeunesse.
D'accord.
Donc là, on est vraiment sur un petit roman, un peu aventure policier, sur deux adolescents qui vont passer des vacances avec leur grand-père dans la montagne. Deux adolescents et leur petite sœur. Et ils vont se retrouver dans une situation un peu particulière où la propriété de son grand-père est convoitée. Voilà. Convoité par une association qui veut les chasser de cette maison. Et donc, ça va être pendant toutes leurs vacances, ils vont devoir faire face à cette situation.
Ça rappelle un peu le film de Cédric Clapiche, La venue de l'avenir, où il y a une famille donc avec des gens qui ne se connaissent pas, qui héritent d'une maison dans laquelle ils retrouvent toute une histoire. Hein, ils ne se connaissent pas, mais c'est leur ancêtre, la personne, la femme qui vivait là est leur ancêtre commun. Et il y a un promoteur qui veut racheter donc effectivement le terrain, raser la maison pour faire un parking, des commerces, etc. Ça me rappelle un peu ce thème-là, ce livre.
Oui, c'est vrai que ça va être un petit peu dans cet esprit-là. C'est en plus le grand-père ne connaît pas très bien ses petits-enfants à ce moment-là. Il faisait un métier qui empêchait de les voir jusqu'à présent. Et du coup, c'est un moyen aussi de partager vraiment des liens entre eux.
D'accord. Et j'en profite pour faire une parenthèse pour vraiment recommander La venue de l'avenir à Diego Arrabal et à Philippe Suberka s'ils ne l'ont pas vu, parce que c'est un film superbe. C'est le dernier Clapiche. Et c'est un film vraiment que j'ai vu 2 fois, moi, 2 jours de suite, tellement je l'ai trouvé fabuleux. Allez-y, Lucie Plessala, on poursuit votre quartier libre.
J'enchaîne du coup après un autre roman policier, mais du coup pour adultes, écrit par Céline Servat, qui s'appelle La vallée des égarés, aux éditions Tornada. Donc c'est un roman policier qui se passe dans le Comminges, et on suit un comptable qui n'avait jusqu'à présent pas connu de problème et qui va se retrouver mêlé à une affaire malgré lui, qui va du coup enquêter sur cette affaire avec l'aide de sa voisine. Donc là, on est à la fois un peu autour du social, un petit peu dans l'esprit un peu social. On suit la gendarmerie aussi qui mène l'enquête en parallèle. Et du coup, c'est un roman policier très prenant et qui se passe dans les Pyrénées.
Bon, vous ne le voyez pas comme c'est de la radio, mais Diego Arrabal a pris note, mais alors de manière très attentive, lui qui est notre expert hein, polar et thriller, a pris note, mais alors vraiment très très attentivement, en fronçant un peu les sourcils, vous voyez, avec, on sent le spécialiste là, l'expert donc polar et thriller.
D'autant plus que je connais un peu Céline Serva, et donc c'est intéressant.
Hein, c'est intéressant, bon, eh bien, si on la connaît, ben écoutez, comme elle nous recommande cet ouvrage, Lucie Pessala, on pourra la contacter pour...
Je vais la contacter pour lui proposer de...
Pour lui proposer une interview. On vous remercie, vous voyez, Lucie Plessala, parce qu'à travers ça, on va peut-être aussi pouvoir donc contacter des auteurs, vous voyez, par ce biais-là. Allez, Quartier Libre, on est avec Lucie Plessala de la librairie Bleu et Or. On vous écoute.
Et là, bah, du coup, je voudrais autrement donc terminer sur un autre roman de la rentrée littéraire. D'un auteur que j'apprécie beaucoup en règle générale et qui ne faiblit pas encore cette fois. C'est donc le dernier roman d'Olivier Adam aux éditions Flammarion. Et donc, c'est le livre Et toute la vie devant nous, qui retrace du coup une amitié à travers les âges, à travers le temps de trois personnes, deux garçons et une femme, et on suit vraiment tout leur trajet. Ils sont leur vie et leurs aspirations, beaucoup autour de la culture. Et l'écriture, en plus, est très intéressante parce que c'est vraiment un échange. On suit plutôt vraiment deux des personnages, Paul et Sarah, qui parlent donc de leur enfance et tout ça. Et on le sent, c'est un dialogue. Chaque chapitre, en fait, est l'un des deux personnages et ils se racontent leur enfance, leur adolescence, jusqu'à l'âge adulte, tout ce qui leur est passé, tout ce qui leur est arrivé à travers les années.
C'est un livre puzzle un peu. C'est un livre puzzle où on reconstitue le puzzle de leur amitié au fur et à mesure de l'écriture du livre.
Tout à fait. Tout ce qu'ils ont pu traverser, les épreuves qu'ils ont traversées, qui ont pu soit consolider leur amitié, soit un petit peu l'affaiblir, mais vraiment tout...
Mais ne jamais l'anéantir, en fait.
Mais jamais l'anéantir. Ils arrivent toujours à rester inséparables, comme ils aiment s'appeler. Les inséparables.
Alors, Lucie Plessala, on refait le tour de votre PAL, de votre pile à lire, de votre quartier libre. Et avant de se quitter, donc on vous écoute.
Alors, du coup, commencer par La mauvaise joueuse de Victor Gestin aux éditions Flammarion.
D'accord.
Un beau roman sur les addictions. J'enchaîne du coup avec Du côté des vivants de Violaine Béraud aux éditions Buchet-Chastel, autour du choix de traitement de la fin de vie. Notre roman. Avec ensuite un manga plutôt sur le harcèlement scolaire, qui s'appelle donc Harcèlement scolaire, la méthode du détective Imamura, en deux tomes, écrit par Hirotaka Abe aux éditions Kurokawa. Et avec donc autrement la maison d'édition Attise, qui propose vraiment plein d'albums différents les uns des autres, mais autour de thèmes assez forts.
Et c'est une maison d'édition coup de cœur pour vous, hein, on a bien compris.
Oui, édition coup de cœur, paloise, qui n'est pas très loin ici aussi.
D'accord.
Et à découvrir.
On pourra également, comme ils sont sur Pau, les contacter pour les avoir, les interviewer. C'est une très belle découverte, merci Lucie Plessala. Allez-y, je vous relaisse la parole.
Et donc, il y a Vacances au chalet maudit de Muriel Lurcher aux éditions Didier Jeunesse. Pour les adolescents, les enfants à partir de 10 ans, un roman policier et d'aventure. Ensuite, un roman policier pour adultes, La vallée des égarés.
D'accord.
Écrit par Céline Serva aux éditions Tornada. Et enfin, pour finir, un autre petit roman de la rentrée littéraire, et toute la vie devant nous de Olivier Adam aux éditions Flammarion.
On va s'arrêter là pour cette semaine avec la rentrée littéraire et surtout la sélection que nous a
le
fait
le quartier libre.
Votre quartier libre que vous avez fait votre invité Lucie Plessala. On va rappeler Bleu et Or où se trouve cette librairie.
La librairie Bleu et Or donc qui est située à Saint-Lary-Soulan donc dans la rue Mire donc à l'entrée de Saint-Lary-Soulan quand on arrive de Lannemezan. Très belle librairie, elle est ouverte tout les jours de l'année, y compris, je sais que ça vous surprend chaque fois, mais super casse, le jour de Noël.
Le jour de Noël, exactement.
Et le premier de l'an même.
on se retrouvera donc la semaine prochaine toujours avec Lucie Plessala, parce qu'on va se poser cette question, on va donner les chiffres réels donc d'une rentrée littéraire. Combien de livres, qui écrit, qui est lu, qui est vendu? Combien touche un auteur? Voilà les questions qu'on va se poser. Et on va voir qu'entre les gens qui sont devant peut-être leur ordinateur en train d'écrire et
la personne
qui aura le livre avec, et bien là aussi, beaucoup d'appelés.
Vous allez faire travailler les gens sous Prozac, Philippe Subercase, vous insistez.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni, Philippe Subercase.
Il habite au 5e avec son chien Bobby. Quand 20h sonne, il descend rue de Clichy. Puis de Ria di Napoli se tape un plat de spaghettis. Remonte et redescend promener Bobby. Solo. Il vit comme Howard Hughes, les volets fermés. Il va juste faire un tour jusqu'à Pont-Cardinet. Dès que vient la notée, c'est tout ce qu'on a pu noter. Cet homme est seul. Cet homme est seul. Croise pour le courrier un jour sur deux. Parfois il reçoit une lettre de Stockholm. Il fait bonne figure dans l'escalier, se tient droit comme un majordome. Mais on voit qu'il va mal. Au cerne de ses yeux, cet homme est seul. Il attend son bus sur le banc, on pourrait croire qu'il est déjà de l'autre côté du miroir. Cet homme est seul. On sait que les cadavres ne portent pas de costard. Car quand il attend son bus sur le banc, on pourrait croire qu'il est déjà de l'autre côté du miroir. Cet homme est seul.
Présence à Pau,
96.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Audience générale du pape Léon XIV ce matin depuis la place Saint-Pierre. Il est revenu sur les derniers instants de Jésus